Il est 7h à Paris, 6h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
RFI Matin.
Bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une, à peine 48 heures après le début du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, de premières entorses.
Les deux parties s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu depuis hier. Précision dans un instant du correspondant de RFI au Liban. La présence militaire française au Sahel, toujours plus remise en question. Le Tchad a annoncé hier mettre fin aux accords de sécurité et de défense avec Paris. Les bases françaises militaires au Sénégal vont elles aussi fermer, selon le président Bassirou Diomaye Faye. Au sommaire également, le tout pour le tout de Michel Barnier, le Premier ministre français, menacé de tomber la semaine prochaine. Il cède à plusieurs exigences du Rassemblement national pour que le parti ne vote pas la censure. Des concessions sur les taxes, sur l'électricité et l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. Et puis les manifestations duraient jusqu'au petit matin. Les pro-européens se sont rassemblés en masse cette nuit en Géorgie après que le Premier ministre a annoncé geler le processus d'adhésion à l'Union européenne jusqu'en 2028. Les résidents libanais ont l'interdiction de se déplacer au sud de certains villages et de leurs environs jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'a déclaré ce matin le porte-parole de l'armée israélienne Avishai Adrae sur le réseau social X, moins de 48 heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Chacun accuse l'autre d'avoir violé cette trêve. L'État hébreu assure, je cite, que des suspects sont arrivés dans plusieurs zones du sud Liban avant d'ouvrir le feu et mener un raid contre un entrepôt de roquettes du Hezbollah. Bonjour Paul Khalifeh.
Bonjour Alban, bonjour à tous.
Ces incidents, ils montrent la fragilité de ce cessez-le-feu. Ils inquiètent les Libanais.
Oui, d'autant que les tirs israéliens ne répondaient à aucune provocation de la part des combattants du Hezbollah, mais visaient surtout à stopper le mouvement de retour des habitants, notamment dans les villages frontaliers. Un retour qui a pris l'allure d'un triomphe pour le parti chiite et sa base populaire. Une douzaine de localités ont été visées par des rafales de mitrailleuses, des tirs d'obus ou même des missiles lancés par des drones. L'attaque aérienne la plus grave a eu lieu sur un village près de la ville de Saïda, au nord du fleuve Litani, là où le Hezbollah est censé se retirer, selon les termes de l'accord de cessez-le-feu. Des avions et des drones israéliens ont poursuivi leur survol du sud du Liban et de la plaine orientale de la Beka. L'armée libanaise a accusé Israël de multiples violations aériennes et terrestres en visant le territoire libanais avec différentes armes. L'armée poursuit son déploiement dans le sud du Liban qui doit s'achever dans un délai de 60 jours conformément à l'accord de cessez-le-feu. Elle a affirmé dans un communiqué qu'elle suivait les violations israéliennes avec les autorités compétentes. Il faut signaler que le comité de supervision du cessez-le-feu composé des États-Unis et de la France, n'a pas encore été formé.
Merci beaucoup, Paul Khalifeh, correspondant de RFI à Beyrouth. Et 48 heures après le début de ce très fragile cessez-le-feu entre Israël et le Liban, on vient de l'entendre, des dizaines de milliers de Libanais ont repris la route de leur maison, de leur appartement. Reportage dans la banlieue sud de Beyrouth avec Laure Stéphane.
Joumana est revenue à Sainte-Thérèse, un quartier de la banlieue sud. Un bref passage, elle en repart avec 5 sacs en plastique, des vêtements, ce qu'elle a pu récupérer de son appartement devenu inhabitable.
Nous n'avons plus d'appartement. L'immeuble a été grandement détruit. On habitait au premier. Il y a tant de destruction. Si vous rentrez dans cette rue-là, les immeubles sont en ruine. C'est Sainte-Thérèse, un quartier en lisière de la banlieue sud, et pourtant tellement détruit.
Des commerçants nettoient les débris de verre au sol. Un habitant jette d'un balcon les décombres entassés chez lui. Il n'y a pas trace de l'État ou d'organisation pour ce déblayage et les services essentiels manquent, dit Joumana.
Nous aimons la banlieue sud, mais il n'y a plus d'immeubles. S'ils reconstruisent le nôtre, bien sûr, nous reviendrons. Notre maison, on y avait mis les efforts d'une vie et tout a disparu. Dans le quartier, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, l'air est irrespirable. Cela va mettre du temps pour que les services reviennent. Il n'y a rien et la situation reste précaire.
La trêve est fragile. Au barrage qui cerne la banlieue sud, l'armée distribue des tracts. Ils mettent en garde contre la présence d'engins non explosés. Laure Stéphane, Beyrouth, RFI.
Notez également qu'à Gaza, les conditions pour un accord sur la libération des otages se sont considérablement améliorées. C'est ce qu'a déclaré Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, hier à la télévision, alors que de nouvelles frappes ont fait au moins 21 morts dans l'enclave palestinienne.
Quelques heures après la visite de Jean-Noël Barrot, chef de la diplomatie française, le Tchad a annoncé hier mettre fin aux accords de sécurité et de défense avec Paris.
Le Tchad, dernier maillon de la la présence militaire française au Sahel après les retraits forcés de ses troupes au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Les précisions de Magali Lagrange.
Il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales, peut-on lire dans le communiqué. Un tournant qualifié d'historique, 66 ans après la proclamation de la République. Le Tchad met donc fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec Paris. Ce n'est pas une rupture avec la France comme le Niger ou ailleurs, tempère le ministre tchadien des Affaires étrangères. Le Tchad veut évoluer, mais la France reste un partenaire essentiel, poursuit Abderrahmane Koulamala. Le communiqué précise d'ailleurs que N'Djamena reste ouverte au dialogue pour explorer de nouvelles formes de partenariat. Les modalités prévues pour la résiliation de l'accord, y compris le délai de préavis, seront respectées, affirme le Tchad, sans plus de précision pour le moment sur les implications de la fin de cet accord. Environ un millier de soldats français sont actuellement stationnés dans le pays. Au début du mois, l'envoyé personnel du président français pour l'Afrique, Jean-Marie Bockel, affirmait sur notre antenne que ni le Tchad, ni la Côte d'Ivoire, ni le Gabon ne souhaitaient le départ des Français.
Une annonce qui intervient alors que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a indiqué hier soir dans un entretien à l'agence France Presse que la France allait devoir fermer ses bases militaires au Sénégal. Le chef d'État sénégalais qui affirme également qu'Emmanuel Macron a reconnu pour la première fois dans une lettre que les forces coloniales françaises avaient commis un massacre il y a 80 ans contre les tirailleurs africains à Tiaroy, près de Dakar. Ils réclamaient le paiement de leurs arriérés de solde. Le bilan officiel de l'armée de 70 morts est contesté par les historiens qui l'estiment à plusieurs centaines. À quelques jours de la commémoration de ces événements, Bassirou Diomaye Faye répondait aux questions de France 2 hier soir.
Naturellement, on n'en est pas encore à l'exercice d'excuses, mais je dois vous révéler que j'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Ce pas consistant à reconnaître que c'est un massacre doit ouvrir la porte à une collaboration parfaite pour la manifestation de toute la vérité sur ce douloureux événement de Tiaroy.
Est-ce que vous pensez que 80 ans plus tard, la France cache toujours délibérément une partie de la vérité?
Évidemment, il y a quelque chose qui a été caché. On a régulièrement cherché à mettre une chape de plomb sur cette histoire-là et nous pensons que pour cette fois, l'engagement de la France sera total, qu'elle sera franche et collaborative et qu'elle sera entière aussi dans cette collaboration-là.
Bassirou Diomaye Faye, invité de France 2 hier soir.
Retour en France où le gouvernement reste sous la menace d'une potentielle motion de censure la semaine prochaine à l'Assemblée nationale sur le budget 2025.
En conséquence, Michel Barnier, le Premier ministre, a fait des concessions hier en faveur du Rassemblement national. Il renonce à augmenter la taxe sur l'électricité, se dit prêt à réduire l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. Pas sûr toutefois que ce soit suffisant, Aurélien de Vernoy.
La réponse de Marine Le Pen est lapidaire. Michel Barnier a jusqu'à lundi pour faire mieux. Toutes les lignes rouges budgétaires fixées par la patronne du RN ne sont en effet pas effacées. La censure est donc toujours sur la table et c'est au Premier ministre de poursuivre les efforts, explique le député Rassemblement National, Philippe Ballard.
Nous, on a fixé 6 points qui sont des lignes rouges. Donc on verra ce que met Michel Barnier dans ce texte final. Rendez-vous lundi à 15h.
À gauche, on regarde ce pas de deux de Michel Barnier avec distance, à l'image de Jean-Luc Mélenchon.
On peut penser qu'il essaye de cette manière de se concilier les bonnes grâces du Rassemblement National. Va-t-il y parvenir? C'est ce que nous allons voir.
Le leader insoumis reste toutefois persuadé que le gouvernement est condamné et qu'il faut rappeler les Français aux urnes.
Dans 6 jours, il n'y a plus de gouvernement. Puisqu'on ne peut pas faire de nouvelles élections législatives, alors faisons une élection présidentielle. C'est le seul moyen qu'on a de voter.
Pas question de présidentielle anticipée du côté de l'alliance gouvernementale, mais un relan de division face à la main tendue au RN. Si du côté de la droite, on se dit plutôt satisfait, l'aile gauche de la Macronie, elle, grimace. Un député confie, on risque d'avoir quand même la censure et en plus, le déshonneur.
Aurélien de Vernoy. Il est 9h09 à Moscou et l'armée russe a annoncé ce matin avoir abattu dans la nuit 47 drones ukrainiens qui ont visé essentiellement la région de Rostov, frontalière de l'Ukraine, où un important incendie s'est déclaré sur un site industriel au lendemain de cet avertissement de Vladimir Poutine. Le président russe qui menace de frapper les centres de décision de Kiev avec son nouveau missile Oreshnik utilisé pour la première fois la semaine dernière.
Et c'est dans ce contexte qu'en Géorgie, un mois après la victoire victoire aux législatives du parti pro-russe au pouvoir, le rêve géorgien, le Premier ministre a annoncé sa décision de geler le processus de rapprochement avec l'Union européenne.
Oui, les négociations sont retardées jusqu'en 2028 suite à une résolution de l'Union européenne adoptée hier, rejetant les résultats des législatives. Résultats, des milliers de manifestants pro-européens se sont rassemblés cette nuit et jusqu'à l'aube à Tbilissi et d'autres villes de Géorgie. Rassemblement dispersé dans la violence. Le récit avec Régis Janté.
La décision se veut une réponse à la résolution européenne, considérant notamment comme frauduleuses les élections parlementaires du 26 octobre. Mais selon l'opposition, le parti au pouvoir n'attendait que cela pour rompre avec l'Occident et revenir dans l'orbite de la Russie. La décision suscite beaucoup de réactions. Une bonne partie des 3,7 millions de Géorgiens étant convaincus que le pays est en train de basculer dans un régime autoritaire inspiré de la Russie. 78 diplomates ont signé une lettre dénonçant la sortie du chemin européen et la violation de la Constitution qui dispose que les institutions du pays doivent œuvrer à l'intégration avec l'UE et l'OTAN. Une manifestation s'est réunie devant le Parlement, sitôt après l'annonce du Premier ministre, un rassemblement marqué par des affrontements avec les forces de l'ordre, l'érection de barricades et l'incendie de poubelles, ce qui est nouveau dans la série de protestations que le pays connaît depuis 7 mois. À 2h du matin, la police a entrepris de disperser la foule, procédant à de nombreuses arrestations, mais ne parvenant pas à rétablir le calme. Régis Janté, Tbilissi, RFI.
Et de son côté, la présidente géorgienne pro-européenne Salomé Zourabichvili a demandé une réaction ferme des capitales européennes.
On termine ce journal au cinéma, Alban, avec une sortie que les enfants attendaient avec impatience.
La princesse polynésienne Vaiana est de retour depuis mercredi sur grand écran. 8 ans après la sortie du premier film, Vaiana s'est imposée dans le catalogue Disney. Le mastodonte du divertissement réactive la franchise à temps pour Noël. Sophie Torlotan.
Vaiana se remet à la barre de sa pirogue polynésienne, mais cette fois, elle ne part pas seule avec le demi-dieu Maui. Elle embarque tout un équipage, un vieil agriculteur, une ingénieure maritime, un jeune homme costaud, ainsi qu'un cochon et son inénarrable coq idiot. Son objectif ? Rassembler les peuples du Pacifique en retrouvant l'île perdue de Motu Fetu.
Atteindre son rivage briserait la malédiction et réunirait enfin notre peuple.
Tempête terrible, monstres marins géants et petits êtres comiques en forme de noix de coco, Vaiana va devoir surmonter bien des épreuves pendant son odyssée, mais surtout apprendre une grande leçon, l'union fait la force. Le scénario de cette suite, prévu au départ pour être une série, ne brille pas par son originalité, mais l'animation reste somptueuse, portée par un travail précis sur l'éclairage, le rendu de l'eau et les personnages. Les critiques mitigées n'empêcheront pas le film de connaître un succès au box-office. Un troisième volet est d'ores et déjà prévu, comme le laisse à penser une séquence à la fin du générique.
Sophie Torlotin pour la sortie au cinéma de Vaiana 2.
Merci Alban Le Prince, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
7h13 à Paris, RFI Matin continue avec le journal des sports. Avec vous Victor Messistrano, on commence par du football, soirée de Ligue Europa hier, la 5e journée de la phase de Ligue.
Après 3 matchs nuls, Manchester United remonte petit à petit au classement. 2e succès de rang face au club norvégien de Bodø Glimt, 3-2. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, l'attaquant danois Rasmus Højlund est l'homme du match. Le nouvel entraîneur tient sa toute première victoire à la tête des Red Devils. Le portugais Ruben Amorim a découvert Old Trafford.
C'était particulier parce que la moitié du stade ne me connaît pas et que je n'ai encore rien fait pour ce club. Mais vu la ferveur du public, j'ai senti dès le début que je n'étais pas seul. Je fais partie des leurs. C'était vraiment spécial et j'espère ne pas décevoir mes supporters. Je pense que nous avons amélioré certaines choses depuis le dernier match en championnat. C'est une compétition différente, une équipe différente. Mais nous avons progressé, nous contrôlons davantage le tempo avec le ballon. Nous nous sommes créés davantage d'occasion. Il y a des choses à améliorer, mais j'ai aimé ce que l'équipe a proposé aujourd'hui.
Manchester United qui se classe 12e sur 36, la Lazio Rome est toujours en tête, mais laisse ses premiers points en route après un nul 0-0 face au club bulgare de Ludogorets, tandis que l'Atlético Bilbao et Francfort complètent le podium avec le même nombre de points.
De son côté, l'Olympique Lyonnais a retrouvé le chemin de la victoire.
Oui, l'OL réintègre le top 8, synonyme de qualification directe en 8e de finale. Large succès en Azerbaïdjan sur le terrain de Karabakh. 4 buts à 1. L'autre club français dans cette Ligue Europa, c'est Nice qui n'a toujours pas gagné et a même concédé une 3e défaite devant son public face aux Glasgow Rangers. Le score est lourd, 4 buts à 1.
Et du handball, à présent, l'Euro féminin s'est ouvert hier à Bâle, en Suisse.
Avec les débuts réussis de la France, les vice-championnes olympiques de Paris ont surclassé la Pologne 35-22. Intraitable en défense et efficace en attaque, les Bleus ont livré une copie qui satisfait leur nouveau sélectionneur, Sébastien Gardiner. Diou a apprécié l'état d'esprit dont ces joueuses ont fait preuve.
Elles ont su rentrer par le bon bout, ne pas flancher comme on a pu le faire dans les matchs de préparation alors qu'on avait une entame idéale. Félicitations à elles. Elles avaient ça comme objectif de sortir du match avec le sourire, donc elles ont rempli le contrat. L'objectif, c'est d'arriver sur le match de l'Espagne avec de la confiance. Ça, je pense que ça, c'est bon à ce niveau-là. Maintenant, ça sera une toute autre opposition et j'espère qu'on sera dans le même état d'esprit.
Et ce match contre l'Espagne, Julien, ce sera demain.
Et on termine par du basket, pas aux États-Unis cette fois. Aucun match de NBA cette nuit, en ce jour où les Américains célèbrent la fête de Thanksgiving.
Et en revanche, on jouait en Euroleague, une autre compétition prestigieuse, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Pour sa première participation, le Paris Basketball continue d'impressionner. 8e succès d'affilée face à Bologne, 80-78. Les Parisiens sont 2e sur 16. À noter aussi la victoire du Real Madrid dans le Classico du basket face au FC Barcelone, 97-90 après prolongation.
Merci Victor Messistrano. Bonjour Stéphane Jeunesse.
Bonjour Julien.
Dans Aujourd'hui l'économie, la grande question en France, le gouvernement de Michel Barnier va-t-il survivre au vote du budget 2025? En tout cas, censure du gouvernement ou pas, budget voté ou pas, il y aura de toute façon des conséquences économiques et financière, on va les analyser avec vous Stéphane. Mais d'abord, qu'est-ce qui coince?
Alors déjà, ce qui bloque, c'est la promesse de 60 milliards d'euros d'économies. Côté réduction des dépenses, l'effort proviendrait de l'État, de la sécurité sociale et des collectivités locales. En ce qui concerne les recettes, la solution, c'est l'augmentation des taxes et des impôts. Des idées qui ne satisfont pas les députés. Sauf que c'est l'Assemblée nationale qui aura logiquement le mot de la fin pour le vote de ce budget, sauf activation de l'article 49.3, évidemment.
Pour le gouvernement, la marge de manœuvre est très étroite.
Oui, Julien, le déficit public français est de 6,1% du PIB, c'est conséquent et c'est bien plus élevé que prévu. L'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, estime que ce budget pourrait diviser la croissance 2025 par deux et supprimer de l'ordre de 130 000 emplois. Pour autant, c'est bien ce texte qui a été approuvé, encouragé et félicité cette semaine par la Commission européenne.
La France sous pression de l'UE, mais aussi des marchés financiers.
Oui, avec ce symbole, elle emprunte à un taux légèrement supérieur, voire équivalent à celui de la Grèce sur 10 ans, taux d'environ 3,019%. Alors concrètement, Julien, ça veut dire que les investisseurs considèrent qu'il y a autant de risques à prêter à la France qu'à la Grèce. La Grèce, on le rappelle, elle se relève aujourd'hui de la faillite dont elle a été victime après la crise financière mondiale de 2008. Mais tout cela reste évidemment symbolique, il est toujours nécessaire de nuancer. Si les marchés considèrent que le risque associé à la dette française est certes élevé, cette dette tricolore reste un actif financier très recherché, car beaucoup moins risqué que d'autres.
Ceci dit, les responsables politiques français sont sur une ligne de crête aujourd'hui, puisque le climat social est aussi explosif.
Oui, l'alignement des planètes est particulièrement défavorable. La situation macroéconomique est très fragile, illustration avec ce nombre record de fermetures de sites industriels. Et avec le budget actuel, moins d'argent pourrait rentrer dans les caisses de l'État en raison de défaillances d'entreprises et donc son corollaire, la hausse du chômage et la baisse des rentrées fiscales. Et là, les pouvoirs publics ne pourront pas mettre en place de nouvelles mesures pour amortir cette crise parce que les finances de la France ne pourraient simplement pas le permettre. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue et tout ça mis bout à bout, on arrive à une situation critique. À cela, il faut ajouter la montée de la concurrence chinoise, peut-être demain une hausse des tarifs douaniers aux États-Unis, ce qui sonne comme une mauvaise nouvelle pour l'exportation. En tout cas, Julien, c'est bien tout cela qu'observent ceux qui prêtent à la France, tout comme les agences de notation. L'agence S&P va d'ailleurs se prononcer ce soir sur la note du pays. Le mois dernier, c'est son concurrent Moody's qui s'est prononcé. L'agence avait certes maintenu la note de la France, mais avait émis une perspective négative, ouvrant la porte à une prochaine dégradation.
Aujourd'hui, l'économie, Stéphane Jeuneste. Merci beaucoup. RFI, 7h19 à Paris et Alger. Voilà 13 jours qu'il a été arrêté, quelques minutes Après son retour sur le sol algérien, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, toujours détenu, est promis à un procès. Des sources qui nous confirment ce matin ce qu'annonçait son avocat mardi, un placement sous mandat de dépôt et des poursuites pour atteinte à l'unité nationale ainsi qu'à l'intégrité territoriale du pays et pour complot à la sûreté de l'État. Après des propos polémiques tenus dans une interview, cette arrestation, comment l'analyser? Que nous dit-elle de l'Algérie d'aujourd'hui? Notre grand invité international est directeur de la publication du journal Le Matin d'Algérie, héritier du Matin, interdit en 2004. Bonjour Hamid Arab.
Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs d'ici et d'ailleurs.
Et merci d'être avec nous. Je viens de citer les chefs d'accusation qui seraient retenus contre Boualem Sansal. Au vu de leur gravité, a-t-il encore une chance d'éviter la prison?
Bah écoutez, effectivement, ce sont de lourdes charges qui pèsent sur Boualem Sansal, mais vous dire qu'il va éviter la prison, c'est trop tôt pour l'avancer. Cela dit, je pense qu'il faut placer l'arrestation de Boualem Sansal dans un contexte global, un contexte répressif qui remonte quand même à 2021 où les autorités ont décidé de réprimer l'expression libre et les manifestations publiques.
2021, donc, c'est d'ailleurs l'année où l'article 87 bis du code pénal a été réécrit. C'est celui que Boualem Sansal aurait enfreint selon la justice algérienne aujourd'hui. Un article qui punit tout acte terroriste ou subversif. Mais depuis sa réécriture, les défenseurs des droits de l'homme critiquent sa formulation actuelle qui, selon eux, permet au gouvernement de multiplier les arrestations arbitraires. C'est ce qu'on voit aujourd'hui?
Ben, tout à fait, effectivement, hein, plusieurs rapporteurs de l'ONU, par exemple, ont appelé l'Algérie à se conformer aux lois internationales et à ratifier cet article et à changer les lois. Les avocats ne cessent de dénoncer les partis politiques, les journalistes, enfin du moins ceux qui restent encore, les rares voix libres qui arrivent encore à se faire entendre. Mais jusqu'à présent, c'est en vain en fait. Hein. En fait, cet article 87 bis, c'est une espèce de couteau suisse qui a été sorti en juin 2021. Pour affûter les lois et réprimer toutes les expressions libres. Tenez-vous bien, par exemple, même on peut même pas appeler à manifester. Hein. On peut vous sortir ce fameux 87 bis pour vous empêcher de d'appeler à manifester.
À manifester, hein. Oui. On parle de plus de 200 prisonniers d'opinion aujourd'hui en Algérie. On voit l'arrestation de cet écrivain que beaucoup décrivent comme un cap supplémentaire franchi. Plus personne n'est à l'abri aujourd'hui. Le seul moyen de critiquer l'Algérie sans risque, c'est de ne plus y être et de ne plus s'y rendre.
Bah, tout à fait, effectivement, hein, c'est une espèce de signal. Hein. L'arrestation de Boualem Sansal, qui est quand même pas personne, hein, c'est un écrivain, un esprit libre, il est connu au niveau mondial, il voyageait beaucoup. Donc là, en arrêtant Boualem Sansal, le régime a voulu dire, attention, hein, si aujourd'hui j'arrête Boualem Sansal, ça veut dire que personne n'est à l'abri d'une arrestation et c'est une vérité. Hein. Mmh. En réalité, rien n'empêche les autorités d'arrêter tout esprit libre. Je tiens à rappeler juste une arrestation qui est très très symbolique pour, à mes yeux. Il y a un ancien officier de la LN, un résistant qui s'appelle Lakhdar Bourgass, un commandant de la LN, qui est un ancien résistant, un moudjahid, donc qui a critiqué l'armée en disant que l'armée actuelle n'est pas l'héritière de l'armée de libération nationale. Ouais. Ça lui a valu la prison, une condamnation, malgré son âge, 86 ans. Donc c'est pour dire aussi que l'âge importe peu.
Oui.
Malheureusement, ouais, on en est là en Algérie. Malheureusement, on en est là. Hein, et la situation est vraiment délétère, détestable.
Pour en revenir à Boualem Sansal, il a été arrêté après avoir tenu dans un magazine d'extrême droite des propos très critiqués sur l'histoire de la colonisation, expliquant notamment que quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest du pays était, selon lui, faisait partie du Maroc. Que sait-on de l'écho que ces mots ont eu dans l'opinion algérienne?
Tout d'abord, je tiens à m'inscrire en faux à ce que dit Boualem Sansal. Je n'adhère pas du tout à ce qu'il a dit. Mais par principe, je soutiens et j'appelle à sa libération. Ça, c'est un premier point. Cela dit, donc, en Algérie, effectivement, ça a froissé énormément de personnes, même si il y a des voix qui disent encore il faut le libérer. Il faut le libérer, mais en tout cas, les frontières sont une ligne rouge qu'il fallait pas franchir, sachant que ces frontières ont été quand même acquises. Chaque arpent de l'Algérie, comme vous le savez, a été acquis chèrement par les combattants de la libération.
Et une question sur cette question très sensible, qui sont aussi intervenus au moment où la France a reconnu récemment la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, le tout dans un contexte où les relations entre la France et Alger n'ont cessé de se tendre ces dernières années. Pensez-vous, comme on l'entend beaucoup, que l'Algérie a voulu envoyer un message à la France en arrêtant Boualem Sansal?
Sans doute en deuxième temps, parce que il faut rappeler que déjà les rapports entre l'Algérie et le Maroc sont ce qu'ils sont. Hein. Il y a une crise. Jamais connu entre les deux pays depuis 2021 ou 2020, si je me souviens bien. Donc c'est déjà rappelé l'intangibilité des frontières entre les deux pays. Donc ça, c'était une ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Ensuite, effectivement, les rapports entre Alger et Paris sont ce qu'ils sont actuellement. Il y a une crise. Il n'y a pas d'ambassadeur algérien depuis plusieurs mois à Paris. Effectivement, ça, le signal, il est aussi clair en direction de la France.
Oui. Votre journal est interdit et d'ailleurs vous le faites vivre depuis la France. Et beaucoup de journaux ont gardé le silence sur l'affaire Boualem Sansal quand il n'épousait pas les positions du gouvernement. Qu'est-ce que ça nous dit de l'état de la presse algérienne aujourd'hui ?
Malheureusement, effectivement, il y a une chape de plomb qui est tombée, qui écrase la presse en général. Il n'y a plus de journaux qui critique, qui apporte la contradiction aux autorités. La plupart des journaux se contentent de reprendre la communication, pour ne pas dire la propagande officielle. C'est dommage parce que la presse algérienne a connu un temps d'impertinence, de liberté qui était extraordinaire au lendemain de 1990 et des manifestations réprimées dans le sang, encore une fois, octobre 88. Mais voilà, il y a encore des voix, encore des voix courageuses, il y a encore des avocats qui défendent les détenus d'opinion, parce qu'il faut rappeler que, je le répète, il y a encore des détenus d'opinion dans les prisons algériennes, ils sont 200. Boualem Sansal n'est qu'un autre détenu d'opinion, malheureusement. C'est un peu l'arbre qui fait découvrir la forêt, qui met à nu cette forêt de répression qui s'abat sur la société algérienne.
Et vous espérez, j'imagine, que cette affaire permettra aussi d'en parler plus ?
Pourquoi pas, parce que j'avoue que jusqu'à présent, la presse internationale ne s'intéresse pas du tout, ou peu, du moins, à ce qui se passe en Algérie, malgré toutes les alertes, malgré toutes les violations des droits de l'homme, sachant que l'Algérie est quand même à une heure de l'Europe. Donc, oui. Je pense que c'est important géostratégiquement.
Merci Hamid Arab, directeur de la publication du journal Le Matin d'Algérie. Bonne journée à vous.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Dans notre émission Questions de femmes, conseils après la naissance, prendre soin de bébé, attachement, alimentation, éveil, apprendre à se connaître.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Bonjour, c'est Maman. Le prix RFI Talent du Rire fête ses 10 ans. 10 ans que nous récompensons chaque année le meilleur humoriste d'Afrique. Mon ami, tu veux être le numéro 10 de notre équipe continentale du Rire? Tu veux recevoir ton prix le 23 février 2025 sur la prestigieuse scène du Festival Abidjan Capitale du Rire qui lui aussi fête ses 10 ans? Inscris-toi et envoie tes meilleurs textes et vidéos sur le site abidjancapitaledurire.com. Hey, bonne chance, hein!
Le goût du monde, Clémence de Navy.
Une croûte, un plat enveloppé dans une pâte cuite. La croûte, merveille de croustillant et de fondant, imprégnée des saveurs qu'elle capture et enveloppe. Une tourte pour préserver, une croûte pour raconter un lieu, un moment, un trésor garni. Fascinante, passionnante, délicieuse, la croûte ce dimanche à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde, Clémence de Navy sur RFI.